J'ai jamais aimé l'expression « on peut pas tout avoir » parce que justement, moi, je voudrais bien tout avoir. Seulement voilà, la vie est souvent faite de manque, de privation et quelquefois même de misère. Les croyants ont l'avantage de pouvoir présenter leurs requêtes au Dieu des cieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils obtiennent tout ce qu'ils demandent. Daniel et ses trois amis sont à deux doigts de passer à l'échafaud avec tous les autres sages de Babylone. Alors ensemble, Daniel et ses trois amis supplient Dieu de leur révéler le rêve que le roi Nabuchodonosor a eu ainsi que son interprétation. Je continue à lire dans le second chapitre du livre de Daniel. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Verset 19. En réponse à l'intercession fervente des quatre jeunes Hébreux, Daniel reçoit la clé de l'énigme qui trouble tant le roi de Babylone. Dieu lui parle dans une vision, ce qui est différent d'un songe. En effet, tandis que Nabuchodonosor a rêvé à une immense statue, Daniel l'a contemplée alors qu'il se trouvait dans un état de transe prophétique. Et en même temps qu'il voyait cette étrange image, l'Esprit de Dieu lui en révélait la signification. Je continue. Alors, Daniel loua le Dieu des cieux. Il dit « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Versets 19 à 23. Daniel était prophète et un homme d'action, mais aussi de prière. Sa louange est calquée sur le sens de cette statue qui représente les transformations des puissances terrestres. Sa prière de reconnaissance résume le message central de tout le livre. En effet, Daniel célèbre la force et la sagesse de Dieu, sa connaissance complète de toutes choses du début à la fin, et sa souveraineté totale sur les affaires des hommes, des nations et particulièrement des rois. Si Nabuchodonosor est sur le trône, il le doit uniquement à Dieu qu'il y a placé, car c'est lui qui, dans les moindres détails, contrôle absolument tout et qui accorde sagesse et pouvoir à qui il veut. Cette louange de Daniel rappelle aussi le célèbre cantique d'Anne que rapporte le juge Samuel. Je continue le texte. Après cela, Daniel alla trouver Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et il lui dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone, introduis-moi en présence du roi et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioch s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Versets 24 et 25. Tout le monde sait que dans les cours royales, les murs ont des oreilles, et donc à Babylone, nul n'ignorait que Nabuchodonosor avait les nerfs en boule et que ce n'était pas le moment de l'agacer. Un despote grincheux est dangereux comme un bulldog qui a faim. Pour cette raison, Arioch, le chef des gardes, introduit Daniel auprès du roi en toute hâte. Il faut dire qu'il faisait traîner les choses en longueur parce que décapiter tous les sages du royaume ne l'enchantait guère. Il voulait au contraire que la vie reprenne son cours normal au plus vite. Ceci dit, ce vieux renard sait aussi saisir les bonnes occasions quand elles se présentent. Espérant bien toucher le gros lot, il prétend avoir déniché lui tout seul comme un grand quelqu'un capable d'interpréter le rêve du roi, alors qu'en réalité c'est Daniel qui a pris l'initiative de venir le voir, et cela à deux reprises. Je continue. Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belshazzar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. » et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Versets 26 à 28. Nabuchodonosor est très sceptique. Alors, il soumet Daniel au même test que les sages qu'il avait appelés en pleine nuit. Il veut deux choses. Premièrement, qu'on lui raconte son rêve, et ensuite, qu'on lui explique ce qu'il veut dire. Daniel décide d'abord de parer au plus pressé, c'est-à-dire de détourner la colère du roi des sages du royaume qui avaient dit, avec justesse, que seuls les dieux pouvaient livrer les secrets que demandait le roi, ce qui leur avait valu la sentence de mort. Daniel est bien d'accord avec eux sur le principe, mais pas sur les détails, et fait une distinction bien nette entre les fausses divinités en général et le seul vrai Dieu à qui il attribue la révélation des choses cachées. Joseph, fils de Jacob, avait tenu un langage semblable quand il avait affirmé au roi d'Égypte « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient ». Daniel commence son discours en donnant le sens général du rêve du roi, disant qu'il annonce ce qui doit arriver dans les temps à venir. En d'autres mots, il trace l'histoire du temps des nations qui vient de commencer et qui s'achèvera à la fin de la grande tribulation. Cette introduction bien en place, Daniel continue et dit « Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir ». Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderais une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Versets 29 et 30. Daniel rappelle au roi les dispositions mentales dans lesquelles il se trouvait et les pensées qui le préoccupaient dans la nuit où il reçut le songe. Puis, au moment où il va lui révéler son contenu et sa signification, il s'interrompt pour, une fois encore, rendre honneur et gloire à Dieu et affirmer qu'il n'est qu'un instrument entre ses mains pour instruire le roi. En d'autres mots, ce qu'il va dire ne vient pas de sa propre sagesse, mais de Dieu. Ce rêve concerne ce qui doit arriver. C'est une vue panoramique de l'histoire de l'humanité depuis le règne de Nabuchodonosor jusqu'à la fin des puissances humaines qui seront remplacées par le royaume de Dieu avec le Messie pour roi. Parce que la dynastie de David a failli dans ses responsabilités, l'Éternel lui a ôté le sceptre royal et l'a donné aux nations païennes jusqu'à ce que Jésus revienne pour régner. Alors, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il prendra le sceptre royal et établira son royaume sur la terre entière. Cette révélation est donnée au premier des nombreux potentats qui exerceront le pouvoir que Dieu leur aura accordé pendant le temps des nations. Daniel n'enseigne pas des vérités spirituelles, mais des faits historiques et politiques qui se dérouleront dans une région du monde s'étendant de l'Occident à l'Orient avec la Palestine pour centre. Le roi va pouvoir s'identifier à son rêve parce que Dieu lui parle de la gloire et de la splendeur d'une statue, un langage qu'il comprend bien parce qu'à Babylone, l'adoration des images était chose courante. Je continue. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. Verset 31. Jusque-là, le visage fermé de Nabuchodonosor exprimait un mélange d'indifférence et de scepticisme. Mais dès que Daniel a commencé à parler, on peut être sûr qu'il a été interloqué et son air blasé a fait place à une vive surprise. Il n'en croyait pas ses oreilles d'entendre décrire le rêve impressionnant qu'il avait fait. La splendeur extraordinaire de la statue provenait de l'éclat des métaux qui la composaient. Cet éclat, ses dimensions colossales, l'étrange amalgame qui la constituait, et probablement aussi l'expression sévère de sa face donnait à la statue un aspect terrible. Il n'est donc pas étonnant que le roi ait été troublé, surtout que ce rêve pouvait aussi signifier un jugement divin. Je continue. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Versets 32 et 33. Au fur et à mesure qu'on descend, les métaux sont de moins en moins précieux, mais aussi de plus en plus durs, depuis la tête d'or jusqu'aux jambes et aux pieds de fer. Puis apparaît l'argile juxtaposée au fer. Cette statue, qui a l'apparence d'un puissant colosse, repose en fait sur une base très fragile. Je continue. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup furent réduites ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Versets 34 et 35. Le rêve en lui-même est très simple, mais troublant à cause de l'aspect général de la statue, de sa composition étrange et de sa ruine rapide et complète. Une petite pierre s'est détachée toute seule d'une montagne et a frappé la statue à son endroit le plus fragile, au pied qu'elle fracasse, ce qui entraîne sa chute et sa destruction. Les métaux sont pulvérisés et se volatilisent comme emportés par le vent. Il ne reste alors plus aucun vestige de la colossale statue, tandis que la petite pierre qui l'a détruite grandit et devient une immense montagne qui remplit toute la terre. Je continue. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelques lieux qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Versets 36 à 38. Après avoir raconté le rêve du roi, Daniel en donne l'explication. Il insiste bien sur le fait que si rien ne se meut, pour ainsi dire, sans la volonté du roi, c'est parce que le Dieu des cieux l'a voulu ainsi. Le prophète Jérémie exprime la même idée quand il dit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi je la confie à qui il me semble juste. À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même assujetti les animaux sauvages pour qu'ils servent ses desseins. Toutes ces nations lui seront assujetties ainsi qu'à son fils et à son petit-fils après lui, jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera asservi à de puissantes nations et à de grands rois. » Fin de citation. Le temps des nations dont a parlé Jésus a commencé avec Nabuchodonosor parce que c'est lui qui a détruit Jérusalem et mis fin à la dynastie de David. En effet, avant lui, il y a bien eu le colossal empire d'Assyrie qui s'étendait des bords du fleuve Tigre jusqu'à l'Égypte. Cependant, le royaume de Juda subsistait toujours et donc la puissance des nations païennes était encore freinée par la présence de Dieu dans son temple. Mais une fois Jérusalem conquise, les nations païennes pouvaient donner libre cours à leur puissance. La statue représente donc des dictatures universelles terrestres hostiles au règne de Dieu. Je continue le texte. Après toi surgira un autre empire moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Verset 39. Quatre empires vont se succéder et dominer de l'Orient à l'Occident. Plus loin dans le livre, ces mêmes empires sont représentés par quatre animaux. Ces empires sont bien distincts les uns des autres, tous très puissants, mais de moins en moins glorieux. La tête en or représente l'empire babylonien qui commença après la chute de Ninive, capitale de l'Assyrie. L'homme fort était alors Nabuchodonosor. La poitrine et les bras d'argent représentent l'empire des Mèdes et des Perses. Ces deux peuples, longtemps ennemis, s'allièrent pour conquérir Babylone. L'homme fort fut le Perse Cyrus et son empire dura 2 siècles. Le ventre et les hanches de bronze représentent l'empire grec fondé par Alexandre le Grand. Il fit la conquête de la Perse, puis s'étendit jusqu'au nord-ouest de l'Inde. Comme cet immense territoire unissait l'Orient à l'Occident, il donnait l'impression de dominer toute la terre. Mais, après la mort d'Alexandre, l'empire partagé entre ses 4 généraux finit par s'effondrer et la Grèce devint une province romaine. Je continue le texte. Un 4e royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer. Comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Verset 40. Les jambes et les pieds représentent l'Empire romain qui commença à la fin de guerres civiles. Le fer est bien moins précieux que l'or, l'argent ou le bronze, mais il est bien plus dur. Moins prestigieux que les précédents, l'Empire romain était cependant plus fort et plus cruel qu'eux. D'une puissance de destruction incomparable, les légionnaires romains portaient une armure en fer qui les rendait pratiquement invincibles, du moins en terrain découvert. En effet, en l'an 9 de notre ère, un prince de la Grande Germanie attire plusieurs légions commandées par le général Varus dans une forêt de la région d'Hanovre et les extermine un à un. Les Allemands résistèrent aux Romains pendant 7 ans avant d'être finalement vaincus par le général Germanicus. Alors que Daniel mentionne la Perse et la Grèce en une seule petite phrase, il décrit l'Empire romain en 4 versets, plus longuement que les 3 autres réunis. Je continue. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon ce que tu as vu, le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Versets 41 et 42. L'histoire de l'Empire romain comprendra 2 périodes distinctes. Pendant la première, représentée par les 2 jambes de fer, il sera d'une force irrésistible et s'établira en Orient et en Occident. Pendant la seconde, représentée par les pieds et les orteils de fer et d'argile, il manifestera à la fois sa force et de la faiblesse. Il est intéressant de noter que plus loin dans le livre, le 4e animal, terrible, qui symbolise lui aussi l'Empire romain, a des dents de fer et possède 10 cornes qui correspondent aux 10 doigts de pied de la statue. Ses orteils sont 10 états qui régneront dans les derniers jours de la 2e phase de l'Empire romain. Je continue. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Verset 43. Un alliage de 2 métaux offre des qualités supérieures à chacun pris individuellement, mais du fer ne se mélange pas à de la terre cuite. On aura beau faire, ils resteront séparés et le tout formera un amalgame hétérogène fragile. Pendant sa 2e période, l'Empire romain sera constitué d'alliances qui auront des failles fatales pour cause d'incompatibilité fondamentale, ce qui affaiblira considérablement sa puissance. Je continue. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Versets 44 et 45. Au moment de l'alliance fragile constituée par 10 états représentés par les orteils de la statue, Dieu établira en ce monde un royaume qui subsistera éternellement. Il vaincra les puissances terrestres qui s'opposent à lui et imposera un nouvel état de choses qui remplacera l'ordre actuel. C'est le sujet du livre de l'Apocalypse. Dans le rêve du roi, la pierre se détache d'une montagne pour en devenir elle-même une qui remplit la terre. Dans les Écritures, la montagne représente un gouvernement. Ici, il s'agit du pouvoir souverain de Dieu qui domine toutes les puissances humaines qui, bien évidemment, ne sont que du néant par rapport à lui. Le Messie, symbolisé par la pierre qui se détache de la montagne, est détaché de Dieu et par Dieu, ce qui signifie qu'il ne tire pas son origine ou sa puissance des hommes. Lors de son retour glorieux, Jésus-Christ sera semblable à un fils d'homme, mais il détruira avec une soudaineté dévastatrice la deuxième phase et manifestation ultime du quatrième empire qui représente la puissance des nations païennes, puis il établira son royaume de 1000 ans qui perdurera jusque dans l'éternité. L'Église universelle ne correspond pas à ce royaume qui dans le futur sera établi par Dieu. En effet, dans la prophétie de Daniel, la statue qui représente les puissances impériales humaines est subitement détruite par la pierre, et alors Jésus-Christ impose immédiatement son autorité sur toute la terre. Or, l'Église n'est pas un royaume et n'a aucune ambition politique. Jésus et les apôtres n'ont pas essayé de changer le système socio-politique de leur époque qui était pourtant particulièrement injuste. L'Église n'est pas appelée à une conquête temporelle, mais spirituelle, non des masses, mais des individus. Et si suffisamment de personnes répondent à la grâce de Dieu, alors toute la société environnante en ressentira les effets bénéfiques. En tant que citoyen, le croyant peut avoir un engagement politique, mais il est d'abord et surtout appelé à représenter Dieu sur terre, par sa vie et son témoignage.